Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce troisième épisode de Jason Ballon Rond, un podcast qui est au cœur de l'actualité sur la planète foot. Très heureux encore une fois d'avoir démarré cet épisode, déjà le troisième. On respecte la cadence jusqu'à maintenant, un par semaine. Et cette fois-ci, on est seulement deux, donc Olivier Prince-Groslot à l'animation, et je suis en compagnie de Doualé Ibrahim, l'excellent Doualé Ibrahim. Comment ça va, Dou?
Écoute, ça va bien, merci. Bon, là, je vais fermer mon chauffage qui est à côté de moi. J'avais un peu froid, fait que j'espère qu'on ne l'entend pas trop. Mais ça va bien, merci. Très content de pouvoir faire cet épisode-là de Jason Ballon Rond. Surtout que là, on est dans une bonne période de l'année, là, une période assez spéciale, là, celle de Coupe du Monde. Là. Donc, moi, j'en profite en masse là, de parler de soccer. Là, c'est vraiment nice.
Tout à fait. La Coupe du Monde, c'est de cette période-là que tu parles. Par contre, pour ce qui est de la Coupe du Monde, prend à peu près 100% de l'attention. Le reste, c'est fermé. Mais on n'a pas besoin d'autres soccer là, avec la Coupe du Monde. C'est en masse avec plusieurs matchs par jour. Aujourd'hui, on va en parler de la Coupe du Monde, mais pas en détail. Là. On va faire un survol. Pour ce qui est des détails, il y a le podcast Aux Premières Loges, qui est un podcast quotidien où on revient sur tous les matchs de la journée à chaque jour. Donc, pour vraiment aller en profondeur dans l'analyse de tous les matchs, de plusieurs joueurs, de ce qui s'est passé au courant de la journée, c'est Aux Premières Loges qu'il faut aller écouter. Mais restez là pour Jason Ballon Rond tout de même, parce qu'on va aborder d'autres sujets très intéressants. D'où on va faire ce survol de la Coupe du Monde. En commençant par le match qui t'a le plus marqué jusqu'à maintenant. Donc là, on est rendu à la première des deuxièmes journées. Donc je ne sais pas si c'est clair, là, la deuxième séquence de match. On vient de faire la journée du groupe A et B. Donc toutes les autres groupes sont à seulement un match de jouer, sauf le groupe A et le groupe B. Jusqu'à maintenant, Dou, le match qui t'a le plus marqué?
Écoute, c'est vraiment bonne question. Pour l'instant, il y a eu quand même plusieurs surprises. Mais moi, écoute, je pense que j'ai pas le choix d'aller avec cette rencontre-là. Mais le fameux revers. Mais en fait, la victoire historique de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, pour moi, et pour l'instant, le match de cette compétition-là, de voir l'Argentine juste se faire surclasser en l'espace de 5 minutes au début de la deuxième mi-temps, puis que passé, ils n'ont pas été capables de revenir dans cette rencontre-là. Une victoire historique pour la troupe d'Hervé Renard qui, pour moi, est la surprise du tournoi pour l'instant. Une victoire historique. Ils ont le droit, en plus, à une journée fériée le lendemain de cette victoire de l'Arabie Saoudite. Puis écoute, c'est pas pour rien que j'adore la Coupe du Monde, c'est parce qu'il y a des petites équipes qui sont capables de créer de grandes choses. Et puis depuis le début de ce tournoi-là, on a vu plusieurs grosses formations, plusieurs grosses nations surtout, s'écrouler face à la pression. Il y a l'Argentine, il y a eu l'Allemagne également qui s'est écroulée. On a failli voir aussi un miracle hier aussi. Ben, en fait, on a failli voir le Portugal l'échapper face au Ghana alors qu'il menait 3-1. Ouais. Ça aussi, ça aurait pu être incroyable. On a vu l'Iran aussi gagner un match face au Pays de Galles. Bref, à date, cette Coupe du Monde-là, elle est excellente à mon avis. Bon, écoute, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais à date, j'aime ça. Puis pour moi, ben, pour l'instant, la rencontre du tournoi, c'est le match entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine qui s'est terminé par la marque de 2-1 pour l'Arabie Saoudite et une défaite dès le début du tournoi pour l'équipe de Lionel Messi qui, je vous le rappelle, joue sa dernière Coupe du Monde en carrière.
Ouais. Et parlant de Lionel Messi et de ses troupes, comment tu vois le reste du tournoi là, pour l'Argentine? Qui a perdu son premier match qui au premier abord était le plus facile. Là, pas que l'Argentine n'est pas favori contre le Mexique et la Pologne, mais ça reste sur papier les deux matchs les plus compliqués. Est-ce que pour toi, ils vont encore finir premier du groupe malgré qu'ils aient trébuché contre l'Arabie Saoudite?
Moi, je pense que oui. Je pense que c'est juste un premier faux pas pour l'Argentine. Faut le dire, contre l'Arabie Saoudite, ils ont eu plusieurs occasions de marquer. Puis malheureusement, ils n'ont pas été capables de concrétiser leurs occasions. Je crois que le Mexique, bon, écoute, on va voir si Ochoa va réussir à créer un miracle dans cette rencontre-là. Mais je vois pas comment le Mexique et même la Pologne. Je vois aucune de ces deux équipes-là battre l'Argentine lors des deux prochaines rencontres. Mais surtout, pour moi, je pense que c'est un réveil qui était important et primordial pour cette équipe de l'Argentine qui s'est juste fait surprendre par une équipe qui pensait. En fait, l'Argentine pensait qu'avec un 1-0 puis juste avec quelques occasions marquées, pensait que ça allait suffire pour remporter le premier match, mais non. Ont perdu face à l'Arabie Saoudite. Puis moi, je m'attends à un réveil de l'Argentine. Puis écoute, Léo Messi en ce moment ne joue pas mal. Mais pour moi, je pense pas que l'Argentine va remporter la Coupe du Monde. Je pense même pas qu'ils vont se rendre en finale. Mais je crois qu'ils vont quand même être en mesure de pouvoir t'amener premier du groupe C.
Groupe C, exact. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un coup de fouet, ce match-là, certainement, pour l'Argentine. Mais l'Argentine, ce n'est pas les favoris pour gagner la Coupe du Monde, à mon avis, non plus. Mais ça reste l'une des meilleures nations de soccer. 36 rencontres d'affilée invaincues du côté de l'Argentine. Et c'est l'Arabie Saoudite, au premier match de Coupe du Monde, qui vient stopper ça. Ça montre que l'Argentine est une excellente équipe, très solide. Et ce n'est pas une rencontre où ils ont été éteints contre l'Arabie Saoudite. Ils ont 3 buts refusés à cause de différentes hors-jeux ou différentes décisions arbitrales. On va parler de l'arbitrage plus tard dans ce podcast-là. Mais vraiment, là, l'Argentine, c'est une puissance qui se doit de revenir à leur meilleur niveau, de concrétiser plus leurs occasions contre le Mexique et la Pologne. Et de faire attention à ces moments plus difficiles en défense, là, où on a accordé 2 buts en 4 minutes pour l'Arabie Saoudite. Et clairement, on a clairement baissé d'intensité là, à ce moment-là. Il faut faire très attention à l'Argentine de ce côté-là. Tu as parlé de Lionel Messi, qui a déjà marqué un but sur pénalty, le premier but de cette rencontre-là, qui a été le seul but de l'Argentine. Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde, tu l'as dit. Combien de buts pour lui dans les 2 prochains matchs de phase de groupe? Est-ce qu'on va avoir droit à du grand Messi?
Moi, je pense que forcément, on n'aura pas le choix du côté de l'Argentine d'avoir un Lionel Messi en grande forme. Je crois que Léo Messi, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'occasions de marquer dans la première rencontre face à l'Arabie Saoudite. Puis moi, je pense que si Messi est capable de rassembler ses troupes et qu'il soit un peu un guide pour sa troupe, ben, il va être capable de marquer beaucoup. Moi, ma prédiction, je pense que Lionel Messi va avoir une rencontre avec 2 buts. Moi, je pense qu'il va marquer 2 buts dans la rencontre contre le Mexique. Je pense pas qu'il va marquer contre la Pologne. Ou peut-être qu'il va avoir un but genre sur penalty ou en tout cas sur coup de pied arrêté. Mais je pense que Messi va terminer la phase de poule avec 3 buts au moins. Puis si c'est pas 3 buts, ben au moins il va avoir quelques passes décisives ou en tout cas des occasions créées, des occasions franches qui vont permettre à l'Argentine de marquer des buts.
Je suis d'accord avec toi, que ce soit avec le PSG ou l'Argentine, Messi est en grande forme. S'il ne met pas le ballon lui-même au fond des filets, ça va être des passes décisives. Je suis d'accord avec toi. Et il est tellement important pour l'attaque argentine. Moi, je vais y aller avec 2 buts et 2 passes décisives. Non, peut-être pas 4 points, mais un but, 2 passes décisives, disons. On va y aller avec ça d'ici cette phase de groupe. Donc, 3 points en 2 matchs, c'est ce que je m'attends pour Messi. Et il doit être le meilleur joueur de son équipe. C'est Messi. Tout passe par Messi du côté de l'Argentine. Si Messi va, pas nécessairement tout va, on l'a vu contre l'Arabie Saoudite, mais ça va pas mal mieux que si Messi n'est pas en pleine forme. Pour ce qui est de mon match le plus marquant, tu as parlé de Allemagne-Japon tantôt, Portugal-Ghana aussi. La France qui a fait une bonne prestation de 4-1 contre l'Australie. L'Espagne, un 7-0 contre le Costa Rica. Mais moi, la rencontre que je veux parler, qui m'a le plus marqué, qui a été très divertissante, surtout en deuxième demi, c'est Portugal-Ghana. Oui, le Japon, ça a été une grosse surprise contre l'Allemagne. Mais je veux parler de Portugal-Ghana parce que c'est aussi un match historique. Cristiano Ronaldo, dont on va parler plus tard dans le podcast, mais Cristiano Ronaldo a établi un record quand même sensationnel, il faut se le dire. Ouais. Là. Il a marqué au moins un but dans 5 Coupes du monde d'affilée, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Ça fait preuve d'une longévité exceptionnelle de sa part. Oui, c'est un penalty généreux. Ça, il faut le mentionner. Pour moi, il n'y avait pas penalty sur cette action-là. Les deux joueurs sont arrivés, ont touché le ballon quasiment en même temps. C'était un contact épaule à épaule dans la surface de épaule à épaule ou presque, là, on s'entend. Pour moi, c'était une bonne action défensive qui ne méritait pas d'être sanctionnée. Ceci dit, Ronaldo s'est fait refuser un but pas en pénalty plus tôt dans la rencontre. Et ça, pour moi, ce n'était pas une faute et on a appelé la faute sur ce but-là.
Ouais.
C'était un contact épaule à épaule encore là que Ronaldo a gagné, a été capable de se retourner et est allé d'une belle frappe enroulée en finition. Et là, il était très surpris que son but soit refusé pour sa faute contre le défenseur. Moi, je pense que le défenseur s'est laissé tomber pour justement attirer le sifflet de l'arbitre. Ça a marché. Mais pour moi, Ronaldo aurait dû inscrire son record sur son but refusé et n'aurait pas dû obtenir de penalty. Bon, le résultat est le même. Il a battu le record contre le Ghana. Mais en tout cas, c'était juste pas les bonnes décisions arbitrales au bon moment pour ma part. Est-ce que tu es d'accord avec ça, de niveau arbitrage? Là,
ouais, c'est... Écoute, on peut en parler rapidement de l'arbitrage depuis le début de cette Coupe du monde-là. Bon, ouais. Elle est quand même un peu défaillante, faut le dire. Il y a eu plusieurs décisions douteuses, puis heureusement qu'il y a l'AVAR. Pour vrai, l'AVAR a une grande utilité, je trouve, dans cette Coupe du monde-là. Je trouve qu'elle permet de ramener certaines décisions, mais des fois, elle n'est pas utilisée... Par exemple, sur le penalty du Ghana, elle n'a pas été utilisée, la VAR, là, ce que je sache. Puis ça aurait pu être utile d'utiliser la VAR parce que pour moi, c'était un plongeon de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, oui, un contact dans la surface de réparation, mais tu vois clairement que c'est laissé tomber par la suite.
Et le contact n'était pas si intense, si pire que ça. Là. C'était un geste défensif calculé qui n'était pas si sanctionnable que ça. De façon évidente.
T'sais, on l'a vu aussi dans la game, dans le match entre le Canada et la Belgique. Il y a eu une faute d'Axa de Witsaw qui n'a pas été sifflée. Puis pourtant, elle était plus flagrante que celle sur Cristiano Ronaldo. Puis c'est ça que c'est là que je trouve que l'arbitrage est un peu douteux. L'arbitrage est un peu douteuse, pas de mentir. C'est spécial là, depuis le début, mais écoute, comme tu l'as dit, peut-être que l'arbitre s'était rendu compte qu'il avait refusé un but à Cristiano Ronaldo, puis en même temps, c'est Cristiano Ronaldo aussi. Donc, c'est plus facile facile d'obtenir certaines décisions en ta faveur. Avec, c'est ça. Fait que ça, pour moi, si c'était Léo Messi aussi ou Neymar qui avait eu la même faute. Bon, peut-être pas Neymar, parce que Neymar a une réputation, mais si c'était... Par exemple, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui se font faucher dans la surface de réparation, souvent il y a plus de chances d'obtenir des pénalties que des joueurs de moins grande qualité, malgré que tous les joueurs qui sont à la Coupe du Monde d'habitude sont des joueurs de grande qualité. Ouais.
Puis tu as dit que la VAR était très utile dans cette Coupe du Monde-là. Je suis en accord avec toi. C'est juste qu'on ne l'utilise pas de la bonne manière nécessairement. Tu l'as dit, dans ce match-là qu'on vient de parler, il y a une action que ça aurait dû être utilisée. Tu parlais de Witsel aussi. Puis, dans le même match Canada-Belgique, il y a clairement un hors-jeu qui a été sifflé alors que c'est la Belgique qui a envoyé le ballon, qui a fait une passe vers Tajin Buchanan. Là, il n'y a pas eu de but sur l'action, mais plusieurs ont dit que il aurait dû avoir un penalty sur cette action-là. Il y a eu un accrochage ou quelque chose dans le genre. Même Federico, je ne me rappelle plus exactement son prénom, Bernardeschi a dit en story Instagram, a défendu ses coéquipiers de Toronto et le Canada que là-dessus, c'était une grosse erreur d'arbitrage, qu'il était non seulement pas censé avoir de hors-jeu, mais avoir un autre pénalité au Canada. Donc, ça, l'arbitrage, on en parle à chaque Coupe du Monde, j'ai l'impression, mais c'est quelque chose de frustrant, et pas juste en tant que partisan canadien, en tant que partisan du soccer, parce qu'il n'y a pas juste dans le match entre le Canada et la Belgique qu'il y a eu des fautes. Puis pour revenir sur cet arbitre-là de Canada-Belgique, c'est un arbitre qui a sifflé des matchs à la 85e minute en Coupe d'Afrique des Nations, donc une compétition de haut niveau, parce qu'il était en état d'insolation, il a-t-il dit. Est-ce que c'était vraiment ça? Peut-être. Mais à ce moment-là, il y a d'autres alternatives. Il y a le quatrième arbitre qui peut rentrer. Il y a des arbitres qui sont en salle vidéo. Il y a des arbitres de côté. Siffler un match d'une grande importance, ça se fait pas à la 85e minute. Il y a 5 minutes à jouer encore. Il y a du temps additionnel. C'est pas un 30 secondes, une minute d'enlever. C'est littéralement... En plus, beaucoup de buts se marquent en fin de match. On l'a vu dans cette rencontre-là. C'est désastreux de faire ça. Puis cet arbitre-là se retrouve à la Coupe du Monde.
Mais bon, tu as
un petit bug?
Ouais, ben c'est ça. Ben j'ai pas bien entendu la fin de ta phrase, mais c'était comme même pas 5 secondes.
C'est insensé, voilà.
C'est insensé, ben écoute.
Je disais que c'était insensé, voilà.
Ouais, ben t'as amplement raison sur ce que tu viens de dire. Bon, ben écoute, c'est compliqué aussi le métier d'arbitre. Là. C'est pas
oui,
un métier qui est simple. Puis écoute, c'est ça qui c'est des humains avant tout. Donc c'est normal que c'est normal que les arbitres fassent des erreurs. Mais c'est sûr que là, d'habitude, quand t'as l'AVAR qui est là pour corriger les petites erreurs humaines des arbitres, mais qu'il n'est pas utilisé de façon adéquate, ben c'est vrai que ça laisse un peu amer face à cette situation-là. Surtout, bon, écoute, c'est sûr qu'on va revenir toujours au premier match du Canada, mais tu sais, j'allais dire, ça aurait été fun d'avoir un deuxième penalty, là. Ça aurait pu permettre au Canada d'avoir un meilleur sort dans cette première rencontre-là, mais écoute, c'est des choses qui arrivent, puis ça fait partie du soccer-là, donc il faut vivre avec ça.
Ouais, et ça aurait été intéressant de voir si c'est encore Alfonso Davies qui l'aurait pris, mais bon, c'est une question qu'on a abordée dans le podcast sur ce match-là, justement. Pour finir sur Portugal-Ghana, cette rencontre marquante, 5 buts dans la même mi-temps avec le record historique de Ronaldo, avec Rafael Leão qui marque dès l'entrée de jeu, avec Joao Félix qui marque, avec 2 buts du Ghana qui m'ont surpris dans cette rencontre-là, qui ont fait très peur au Portugal et à Ronaldo. Surtout avec la dernière action du match, Iñaki Williams qui se cache derrière Diogo Costa, le gardien portugais, et attend que celui-ci mette le ballon par terre. Dès que c'est fait, court sa vie pour aller prendre le ballon et tenter de la mettre en surprenant complètement le gardien, la mettre dans les filets. Malheureusement pour lui, tout marchait dans son plan, c'est juste qu'il a glissé au dernier moment. Ça fait en sorte que les défenseurs sont revenus, mais ça aurait été... incroyable comme but. Pas que c'est spectaculaire, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu personnellement. Là. Donc, ça aurait été absolument fou comme but. Et Ronaldo est très peur sur le banc. On l'a vu, de belles images.
Là. Mais écoute, t'as amplement raison. Là, j'allais dire, la deuxième mi-temps entre le Ghana puis le Portugal a été absolument exceptionnelle. On a eu le droit à plusieurs buts. Puis t'es pas juste côté Portugal, mais également Ghana qui s'est extrêmement bien débrouillé dans cette rencontre-là. Malheureusement pour eux, ça a été une défaite. Puis t'as parlé du, si je me trompe pas, c'est troisième but. Attends, parce qu'il y a eu Cristiano Ronaldo. Si je me trompe pas, c'est João Félix qui a marqué ça.
Le deuxième but, puis le troisième, c'est Rafael Leão, ouais.
C'est ça. Rafael Leão, OK. Pour moi, lui devrait être titulaire indiscutable, à mon sens.
Je suis 100% d'accord.
Avec le Portugal, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Santos qui ne le fait pas titulariser.
Je suis totalement d'accord.
Je comprends pas. Ça, c'est quelque chose. On en a pas parlé dans l'épisode de nos premières loges. Puis je trouve que c'est une question qui mérite d'être répondue parce qu'on le voit depuis le début de la saison du côté de l'AC Milan à quel point il est important pour cette formation-là. Puis il y a amplement sa place du côté du côté de l'équipe du Portugal. Puis en plus, moi, qu'est-ce qui me fascine, c'est à chaque fois qu'il marque, il a tout le temps souri, man. Genre, dès qu'il tire, il a un sourire au visage. Puis je suis comme, waouh. Comment tu fais pour avoir la concentration de marquer un but puis de sourire avant même que le ballon rentre dans le but. Bref, moi je trouve que Léao devrait être titulaire, à mon avis. Là. Ça, c'est j'en comprends pas trop. Là.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a une qualité de passe et de finition dans l'élite, Raphaël Léao. Je me rappelle pas c'est qui a été titularisé à sa place, ça m'échappe, là, mais bref, en tout cas. Il y avait Félix, il y avait Ronaldo. C'était qui était sur l'aile gauche, ça te revient-tu?
Ben, c'est ça, je m'en ai regardé tout de suite. Jota était pas titulaire, si je me trompe pas.
Non, Jota était blessé.
Non, ça, Jota est pas là. Mais attends, je vais te dire ça tout de suite. J'ai
l'information du...
Le département de recherche, d'après moi, d'ici gros max 10 secondes, le département de recherche devrait avoir une réponse.
Je veux parler.
J'ai trouvé. Et moi, j'allais le mentionner, mais je pensais pas qu'il était utilisé à l'aile droite. Mais c'est Bruno Fernandes.
OK, c'était Bruno qui était à l'aile. Okay.
Bruno Fernandes, ouais. Bruno Fernandes.
Ça veut dire qu'on avait... Ouais, c'est vrai parce qu'on avait... Vas-y.
Parce que j'allais dire... T'as dit au milieu de terrain, t'avais Bernardo Silva, t'avais Neves aussi qui était titulaire. Et t'avais Otavio aussi qui était...
Ouais, c'est vrai, il y avait Otavio.
Titulaire du côté du Portugal. Pour moi, c'est quand même un excellent milieu de terrain. Je pense qu'il y a trois valeurs place dans le milieu de terrain.
J'étais surpris de sa titularisation, mais il les mérite.
Oui, il n'a pas joué un mauvais match pour le Portugal, à mon sens, qui est une équipe qui a beaucoup de talent, mais qu'elle fait peur des fois par des moments de flottement, comme on l'a vu dans la rencontre contre le Ghana. Ils ont des moments de flottement que tu es comme « Ih! » Comme ils peuvent facilement échapper une rencontre. Parce que c'est le genre de moment de flottement qui peut te faire coûter un match pour n'importe quelle équipe. Là. Je parle pas juste pour le Portugal. Là.
Ah, je suis très d'accord avec ça. Tu l'as parfaitement dit contre le Ghana. Ça aurait très bien pu se produire. Maintenant, rapidement, là, le joueur jusqu'à maintenant du tournoi pour toi, il y a eu plusieurs doublés dans cette compétition-là. Saka, Richarlison, Valencia qui a rajouté un autre but, donc il est le meilleur buteur du tournoi jusqu'à maintenant. Gakpo au début également. Plusieurs joueurs qui ont fait de grosses performances. Pas nécessairement qui ont marqué deux buts, ça n'est pas obligé d'être ça. Ça peut être un défenseur, un gardien. Qui est le joueur du tournoi pour toi, rapidement?
Bon, il est extrêmement tôt pour dire ça, mais
ouais, moi, c'est... jusqu'à maintenant, on s'entend.
Moi, j'allais dire, moi maintenant, si j'ai un choix, pour moi, c'est NR Valencia. Ouais. Valencia a été excellent pour l'Équateur, a marqué trois buts en deux rencontres, puis surtout, c'est la pierre angulaire de l'offensive de l'Équateur, puis il a tellement un bon début de tournoi, à mon avis. C'est grâce à lui si l'Équateur domine autant et surtout montre du beau football comme ils ont été capables de le démontrer depuis le début du tournoi. Pour moi, si j'ai un joueur si j'ai le choix déjà à nommer un joueur pour avoir le titre de meilleur joueur du tournoi, c'est lui. C'est Enan Valencia. Pour moi, c'est Enan Valencia qui est mon MVP pour l'instant.
Mm-hmm. C'est mon choix aussi. Là. Je pense que sans lui, l'Équateur ne serait pas du tout à ce niveau-là. Mais mon deuxième choix, parce que tu as nommé mon premier, qui est un très bon choix, bravo. Moi, je vais y aller avec, dans le même groupe, le groupe A aussi, Cody Gakpo, que je viens de parler aux premières loges. Mais écoutez, les Pays-Bas, là, n'a pas disputé un mauvais match contre le Sénégal, mais quand même a eu de la misère contre le Sénégal, a marqué seulement deux buts en fin de rencontre. C'est Cody Gakpo qui a marqué le premier de ces deux buts-là d'une belle tête. Puis peut-être qu'on n'aurait jamais eu le deuxième but de Klaassen si c'était pas de ce premier but-là de Gakpo. Premier point. Deuxième point, c'est lui qui marque le but dès le début de la rencontre contre l'Équateur. Et s'il ne marque pas ce but-là, peut-être que l'Équateur remporte le match. Donc, Cody Gakpo peut-être à lui seul a offert non seulement la victoire aux Pays-Bas, mais la nulle aussi contre l'Équateur. Donc, pour moi, il est dans les meilleurs joueurs du tournoi jusqu'à maintenant. Mais la compétition, elle est excessivement jeune. Tu as bien raison là-dessus. Maintenant, Croatie-Canada. C'est le prochain match que tous les amateurs de soccer vont surveiller avec, soccer canadien surtout, vont surveiller avec grand intérêt. 3,7 millions d'auditeurs et de téléspectateurs lors du dernier match contre la Belgique. C'est un très beau chiffre, honnêtement. C'est le deuxième événement sportif le plus écouté cette année, en 2022, après le Super Bowl. Donc, c'est encourageant quand même, l'intérêt, ouais. Même si c'est seulement pour le Canada, mais quand même, c'est plus que ce que je m'attendais. Ouais. Et je veux revenir sur un commentaire de John Unman en conférence de presse, l'entraîneur du Canada, qui, sous le coup de l'émotion, a dit « We're gonna F them up » en parlant de la Croatie. Je ne sais pas si tu as vu ça.
Ouais, je l'ai vu, ouais, c'est M. Hardman n'a pas mâché ses mots. Puis écoute, moi je trouve ça rassurant, là, je veux dire, j'aime la confiance. J'adore la confiance.
Ouais. Est-ce que tu trouves que c'était une attaque envers la Croatie? Est-ce que tu trouves que c'était un manque de respect envers la Croatie? Parce que il y a certains partisans journalistes croates qui trouvent ça. Mais John Unman s'est expliqué puis a dit non, j'étais sous le coup de l'émotion. Je m'adressais à mon équipe et aux partisans de soccer dans le monde. C'était pas une attaque contre la Croatie. C'était sous le coup de l'émotion. Est-ce que tu penses qu'il était au courant de ce qu'il disait et de l'impact, les conséquences que ses propos allaient avoir, ou tu penses vraiment qu'il dit la vérité puis c'était sous le coup de l'émotion?
Moi, je pense qu'il dit la vérité sous le coup de l'émotion. Puis écoute, d'après moi, je pense que si le Canada joue exactement de la même façon contre la Belgique, mais avec une plus grande réussite, je pense qu'ils ont tout pour battre la Croatie, à mon sens. J'allais dire, ils ont joué presque un match parfait face à la Belgique. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de gagner face aux Belges, surtout à cause de quelques petits détails qui ont fait de mal. Mais non, j'allais dire, pour répondre à ta question, je pense qu'à propos de John Erdman, c'est sous l'effet de l'émotion, mais je crois qu'il y a quand même une part de vérité qui est sortie. Je ne sais pas si c'est vraiment une attaque qui est dirigée envers les Croates. Moi, je pense plus que c'est une attaque qui est dirigée pour le reste du groupe. Fait que ce serait également pour le Maroc, également pour les autres équipes, s'ils vont plus loin, par exemple. Moi, je pense que c'est vraiment... Je peux comprendre. C'est sûr que c'est un peu maladroit de sa part d'arriver en conférence de presse puis de juste tout dire.
Ouais, c'est maladroit.
Directement après la rencontre. Surtout après avoir joué un gros match, puis surtout un match qui était extrêmement émotif pour le Canada. Là, un match que tu avais l'impression qu'il aurait pu avoir un meilleur sort, puis ça, c'était normal aussi, on pouvait le voir de nos propres yeux. Mais c'est pour vrai, cette réaction-là rend les choses assez intéressantes pour la suite des choses. J'ai hâte de voir la performance que le Canada va nous offrir contre la Croatie. Est-ce qu'ils vont jouer avec la même intensité? C'est là que ça risque d'être intéressant. Puis surtout, ça va être quoi les ajustements pour la formation canadienne? Est-ce qu'ils vont revenir avec la même formation? Est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont être priorisés? Est-ce qu'on va voir, mettons, Ismaël Koné qui va jouer plus de minutes, qui va avoir plus de minutes de jeu? Ça risque d'être intéressant. J'adore Hutchinson, mais Hutchinson, à mon avis, si tu as besoin de plus de rapidité, il faudrait peut-être que tu penses à une option comme Ismaël Koné à la place d'Hutchinson. Mais tu sais, j'allais dire, en même temps, Hutchinson, c'est le capitaine, c'est le leader de cette formation canadienne. Donc, je sais pas si John Erdman va décider de le mettre sur le banc pour prioriser une attaque. Puis écoute, ça va être intéressant de voir la suite des choses pour le Canada. Très hâte à dimanche.
Ah, j'ai très hâte aussi avec toi. C'est des bonnes questions que tu as soulevées. Atiba Hutchinson, c'est un élément que je comprends qui pose question là, dans l'effectif du Canada. Il y a aussi la défense. Là, on a joué avec deux centraux, deux latéraux. Johnston était latéral. Richie Larea était un peu plus haut sur le terrain. On avait vu en qualification des fois une défense à trois avec deux pistons, donc une défense à cinq si vous voulez mieux. Ça va être intéressant de voir si on va jouer. Moi, il y a Junior Oilet aussi, que je ne suis pas sûr que c'est la meilleure personne à titulariser. J'aime bien Sam Adekugbe. Mais si on met Sam Adekugbe en tant que titulaire, ça veut dire qu'on joue. Pardonnez-moi. Ça veut dire qu'on joue avec une défense à 5, donc 3 en charnière centrale, 2 sur les latéraux, 2 sur les ailes. Et ça fait donc que Johnston joue en défense centrale. Et Johnston, c'est pas sa position naturelle. On l'a dit depuis le début du tournoi. Et il a été bon latéral comme il est habitué de l'être contre la Belgique. Donc, je ne sais pas si tu avais un mot à dire là-dessus, mais ça va être très intéressant de voir les choix de Erdmann.
Ah ouais, ben c'est ça que j'allais dire. J'allais dire que peut-être miser un peu plus sur des joueurs offensifs. Tu sais, quand par exemple, quand ils ont embarqué, bon écoute, c'est sûr que c'est pas des joueurs les plus talentueux, mais tu sais, quand ils ont embarqué Mahler puis Osorio, moi je trouve que ça peut amener un peu plus de punch offensif. C'est sûr que là, il faut miser un peu moins sur la défense parce que au niveau défensif, le Canada a tenu le coup face à la Belgique. Écoute, c'est vrai que lors de la dernière rencontre, moi j'ai trouvé personnellement que Kevin De Bruyne avait beaucoup trop de espace au milieu de terrain, puis que je trouvais que le milieu de terrain belge aurait pu vraiment faire mal à la défense canadienne, mais que Kevin De Bruyne n'était pas dans un grand soir. Donc ça a vraiment aidé le Canada. Là, c'est là que ça risque d'être intéressant. Est-ce que tu as un petit peu plus misé sur la même formation, puis avec deux défenseurs centrales, puis deux latéraux? C'est des grandes questions que John Herdman devra résoudre d'ici dimanche. Puis écoute, l'affaire, c'est que c'est pas le plus grand problème, à mon avis. Le problème, c'est vraiment, est-ce que le Canada va être capable de marquer un but lors de la prochaine rencontre? Est-ce qu'ils vont être capables de générer des chances dans la surface de réparation? Parce que c'est vraiment ça qu'ils ont fait couler lors de la dernière rencontre. Contre la Belgique, ils avaient plus d'occasions de créer que la Belgique. Ils avaient plus de ballons que les Diables Rouges. Mais le problème, c'est qu'ils ont seulement eu 3 tirs cadrés à cette rencontre-là, dont un penalty arrêté beaucoup trop facilement, à mon avis, par Thibaut Courtois. J'ai hâte de voir la formation canadienne dimanche.
Ouais, puis c'est 3 tirs cadrés sur, je crois, 21 tirs au total.
Ouais.
C'est le taux de réussite en termes de tirs cadrés est trop, beaucoup trop bas. Là. Tu es vraiment là, dans un examen, là, 3 sur 21, tu passes pas pantoute. Là. C'est vraiment amélioré du côté du Canada. Puis c'est vraiment, tu as raison là-dessus, c'est vraiment l'aspect du jeu le plus flagrant à améliorer du côté canadien. Bon, pour finir sur ce segment Coupe du Monde, je veux une prédiction Canada-Croatie de ta part pour dimanche. J'ai hâte d'entendre la tienne.
Écoute, je pense...
C'est surprenant, hein?
Écoute, je vais aller tout de suite. Je pense que Canada va l'emporter dehors face à Croatie. Je pense que Canada va gagner, va marquer, puis va marquer plus qu'un but. Parce que je crois sincèrement que s'ils sont capables de jouer de la même façon face à une équipe de la Croatie qui est beaucoup plus... qui est plus vieillissante que celle de la Belgique, puis qui n'est pas rapide, je pense que Canada a les outils pour surprendre la Croatie et surtout marquer plus qu'un but, puis de gagner leur première rencontre dans leur histoire, si je ne me trompe pas. Le Canada qui n'a pas remporté un match dans leur histoire. Donc, c'est là que ça va.
Ouais, puis ils n'ont pas marqué un but non plus, je pense. Hein.
Non, il n'y a pas de but marqué dans la Coupe du Monde. Donc, c'est pas clairement qu'il n'y a pas de
point. Pas de match remporté non plus.
Ouais.
Le premier, je suis d'accord avec toi, le premier match, le premier but du Canada dans cette Coupe du Monde, ça, dans l'histoire de toute leur Coupe du Monde, c'est-à-dire deux, ça va être dimanche contre la Croatie. Et toi, tu as dit 2-1. Mon score est très proche du tien. Je dis 2-0. Aucun but encaissé. On a encaissé un seul but. On a donné quasiment une seule chance de marquer contre la Belgique. La Croatie n'a pas la même attaque que la Belgique. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de Lukaku du côté belge, mais tu as quand même un Kevin De Bruyne. Tu as plus de danger, à mon avis. Tu sais, croate, tu as Perisic, qui n'est pas ce qu'il était il y a 4 ans. Et après ça, c'est plutôt mince. Donc, je pense qu'on est capable de ne rien encaisser contre la Croatie si on joue avec la même solidité en défense que contre la Belgique. Et je pense qu'on va être capable de marquer 2 buts. Je pense que là, on va être capable de finir cette fois-ci. Mm-hmm. Je vais aller avec Tejan Buchanan et Alphonso Davies qui seront les marqueurs pour moi dans ce match.
Ouais, mais moi, j'ai même pas dit de marqueur. Moi, je pense que ça va être doublé de Jonathan David. Ça va être Jonathan David qui a eu un match assez difficile contre la Belgique. Je pense qu'il va être présent pour le match contre la le contre la Croatie. Puis ça va être ma prédiction.
Mais David, les deux buts?
Ouais, Jonathan, ouais, Jonathan David, les deux buts.
Oh, ça c'est très intéressant, très intéressant. Ouais. Donc voilà, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Croatie, Canada, c'est dimanche à 11h. Donc, si vous êtes des lève-tard, ben là, levez-vous pour ce match-là au moins. Si vous êtes des lève-tôt, ben regardez Belgique-Maroc à 8h avant aussi, parce que c'est l'autre match du groupe F. C'est un rendez-vous, on le répète, soyez là, soyez encore plus que 3,7 millions au Canada, pourquoi pas. Ce serait vraiment une fierté de dépenser chez Fleu, qui est déjà très bon. Maintenant, fini la on a quand même pas mal parlé de la Coupe du Monde alors que j'ai dit qu'on n'en parlerait pas tant que ça, mais écoute, c'est pas grave. On va maintenant se passer au segment CF Montréal parce que même si c'est la saison morte, même si c'est la Coupe du Monde, il y a de l'actualité, il y a des nouvelles du côté du CF Montréal, notamment entourant Alistair Johnston qui a connu une performance qui a attiré des regards, semble-t-il, du côté de Celtic en Écosse. Parce que Fabrizio Romano, un journaliste de très grande réputation, très, très fiable, dit que les négociations sont très avancées pour un transfert entre Johnston et le Celtic. Johnston, que 24 ans, donc quand même très jeune. Et puis Olivier Renard, qui n'a pas hésité, là, ça n'a pas tardé avant d'avoir des négociations qui se rendent loin. Comment tu vois ça, toi, une autre perte pour le CF Montréal ou plutôt un autre gain d'argent important? Tu vois le vase à moitié vide ou à moitié plein?
Ouais, je pense que c'est un mélange des deux, en fait. Ouais. C'est sûr que ça va être une grosse perte. Ouais, c'est plus le trois quarts, mettons. Parce que le problème, c'est que oui, voir. Ben en fait, non. En fait, c'est pas tant un problème. C'est assez complexe le dossier d'Alistair Johnston parce que oui, le CF Montréal va probablement avoir va recevoir probablement beaucoup d'argent en transfert pour Johnston, mais c'est quand même une grosse perte. J'allais dire, il a gagné une qualité offensive qui est extrêmement primordiale. Pour l'équipe du CF Montréal. Mais écoute, en même temps, ça va nous permettre de peut-être d'avoir peut-être un gars comme Zachary Broguillard qui va avoir plus de minutes de jeu. Puis ça va peut-être lui faire du bien. Lui qui a surtout été excellent quand il venait remplacer Alistair Johnston par moment dans la saison. Il a marqué beaucoup de buts l'an passé. Donc ça va être intéressant de voir si le CF Montréal va faire plus confiance à Broguillard qui était titulaire, si je ne me trompe pas, il y a 2-3 ans. Puis depuis en tout cas, au moins depuis l'an passé, c'était Alistair Johnston qui était rendu titulaire indiscutable du côté de CF Montréal. Mais pour répondre à ta question, c'est un mélange des deux. Oui, c'est une bonne transaction pour CF, mais également, c'est une grosse perte, surtout dans l'aspect offensif du jeu d'Alistair Johnston. Parce que défensivement, c'est pas le meilleur, mais offensivement, c'est une pièce maîtresse, je trouve, de l'offensive du CF.
Ouais, et puis même défensivement, avec le Canada, le premier match a été un peu plus compliqué, mais avec le CF Montréal, a été excellent défensivement, là, aussi Alistair Johnston. Et offensivement, a apporté beaucoup de bons centres, des buts, des passes décisives. Donc, très d'accord avec toi. Ça va être une grosse perte, c'est sûr. Mais du moment que pour moi, c'est du moment qu'on utilise l'argent pour bien le remplacer. C'est vraiment ça qui va être important du côté d'Olivier Renard. Et pas juste dans le cas de Alistair Johnston, il y a Ismaël Koné aussi, qui durant le mercato d'été, en fait, était pisté par Sheffield United, Norwich en Championship. Une autre équipe de Championship s'intéresse à lui, Watford. Donc, lui aussi, là, je pense que c'est pas mal acté qu'il va partir. Wanyama est parti, Mihailovic est parti. Pantémis pourrait ne pas re-signer le contrat. Il y a énormément de trous à boucher du côté de CF Montréal et ça va dépendre de ce que Olivier Renard va faire avec l'argent qui rentre dans les coffres du CF Montréal, de bien la dépenser et de ne pas hésiter à la dépenser. Là, on a une équipe qui peut enchaîner avec une autre bonne saison si on fait les ajustements nécessaires, si on va jouer les bons joueurs, si on va chercher les bons joueurs, pardon. Est-ce que tu penses qu'on va on va être capable de remplacer tous ces joueurs-là poste par poste du côté de Renard?
Oh, ça, écoute, je peux pas vraiment répondre à ta question en ce moment, mais ça risque d'être intéressant. Écoute, moi je pense que pour vrai, puis c'est ma plus grande crainte, si Kamal Miller continue à
Ouais.
avoir une bonne prestation du côté du Canada, ça je crois que ça va être la plus grosse perte du CF Montréal parce que je trouve que c'est là que ça va faire mal du côté du CF Montréal. Je pense pas qu'ils vont trouver un défenseur central du calibre de Kamal Miller. J'allais dire, il est incroyable. En tout cas, il était incroyable dans la première rencontre contre la Belgique. Il a même été le meilleur joueur canadien lors de cette première rencontre-là. Donc, lui, je crois que ça va faire mal. Mais pour le reste, je pense qu'il faut juste attendre puis voir qu'est-ce que Olivier Renard va nous réserver pour la suite des choses. Moi, j'ai hâte de voir surtout. Moi, j'ai hâte de voir le mercato d'hiver directement
Ben
après la Coupe du Monde. Le mois de janvier, c'est là que ça risque d'être intéressant pour le CF Montréal.
oui.
Parce que là, j'ai dit ça, tu as la possibilité de perdre Koné, Alistair Johnson. Là, tu
Il y a
parlais
le
de
c'est déjà fait.
Pantémis. Bon, Mihailovic, c'est déjà fait. Tu as
Wanyama,
également
pas mal fait
Wanyama qui est
aussi.
déjà fait aussi. Donc, puis là, c'est ça. Là, on va voir que si Kamal Miller connaît une excellente Coupe du Monde, là aussi, ça risque d'être intéressant. D'après moi, il va y avoir beaucoup d'offres qui vont venir du côté de CF Montréal. Surtout peut-être même de bonnes équipes européennes. C'est là que ça risque d'être intéressant. Je pense que le CF Montréal, s'ils sont capables d'amasser beaucoup d'argent, ils vont être capables d'acheter au minimum un joueur de grand calibre. Là. Je ne sais pas si ça va être un attaquant ou un milieu, mais ils vont être capables de peut-être chercher un joueur d'extrême grand calibre. Allez, ça va?
Je l'espère honnêtement parce que il le faut, là. T'as un Mihailovic qui était très utile offensivement au milieu de terrain qu'on doit remplacer par un autre joueur talentueux. On a parlé de Johnston et tout. Ça bug-tu?
Ah, mais c'est ça, c'est qu'il y a eu un petit retard, mais là, ça va. Là, ça va.
D'où? Allô, allô?
Je t'entends.
T'as-tu compris ce que je disais sur Johnston et Mihailovic?
Ouais, j'ai tout compris. Absolument tout compris.
OK.
On peut continuer quand même, là.
Ça
Je pense que
va?
ça
OK.
devrait.
Bon, je vais parler, mais si tu m'entends, c'est ça qui compte. On s'excuse aux auditeurs. Mais ouais, ce que je disais, c'est que Mihailovic, Johnston, déjà là, c'est deux grosses pertes. Koné, ça fait très mal de perdre un jeune espoir comme ça. Wanyama, un roc solide en milieu de terrain qui va être difficile à remplacer. Il y a beaucoup de trous à boucher et je pense que Olivier Renard ne doit pas être gêné de dépenser de l'argent qui va être reçu. C'est fait pour ça parce que sinon, on ne peut pas s'attendre à le même genre de saison du côté du CF Montréal. Passons au dernier sujet de. OK. D'où est de retour? Parfait. Passons au dernier sujet. De ce podcast, d'où Cristiano Ronaldo, qui non seulement a battu un record historique dans son match contre le Ghana, mais il y a 2 jours, mais en plus de ça, il le fait sans club. Il est sans club présentement, Cristiano Ronaldo. Il doit bien performer pour se chercher un club.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui advient avec lui? Est-ce que tu penses que beaucoup de clubs de haut niveau ont été intéressés par Ronaldo. Est-ce qu'il va demeurer dans une grande ligue d'Europe?
Moi, je pense que Cristiano Ronaldo a absolument les capacités pour rester dans une grosse équipe d'Europe. Là, on l'a vu. Si on voit des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic ou Olivier Giroud, oui, Olivier Giroud est un grand joueur, à mon avis, est un grand joueur, mais qui sont capables de rester même à leur âge tardif. Moi, je pense que Cristiano Ronaldo a toutes les capacités pour rester en Europe et surtout jouer pour un grand club. Bon, moi, la plus grande question que j'ai pour Cristiano Ronaldo, c'est est-ce qu'il va être enfin capable d'accepter son âge puis de se dire, écoute, je n'ai plus 25 ans, je ne peux plus être la tête d'affiche de la meilleure équipe européenne au monde, puis vraiment de comme dire, je vais jouer moins de minutes, je vais faire attention à ce que je fais, puis je vais vraiment jouer pour l'équipe et un peu moins pour moi. Parce que là, Cristiano Ronaldo, avant, oui, écoute, Oui, écoute, ça reste un grand joueur, ça reste un des plus grands joueurs de l'histoire du soccer, mais c'est parce qu'à un moment donné, on le voit clairement que genre une équipe ne peut plus miser sur Cristiano Ronaldo comme joueur numéro un. Et c'est pour ça que c'est en partie pour ça que Cristiano Ronaldo est resté cet automne du côté de Manchester United. C'est que les grands clubs avaient peur de prendre ce gamin d'acheter Cristiano Ronaldo, de dire hey, si Cristiano Ronaldo va nous demander des trop grosses demandes, puis ils vont nous demander d'être vraiment la tête d'affiche puis être le joueur numéro un de la formation. C'est là que c'est vraiment ça ma plus grande question. C'est est-ce que Cristiano Ronaldo va être capable d'accepter son âge et surtout un nouveau rôle qui n'est plus d'être le joueur clé d'une équipe qui veut aspirer à remporter une Ligue des Champions? C'est vraiment ça la question que j'ai pour CR7.
Bon, donc. De ce que je comprends de ta réponse, pour toi, il fait partie il peut se retrouver dans une grande équipe. Peu importe s'il n'est pas tout le temps titulaire, il n'est pas à tête d'affiche. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. La question, c'est quelle grande équipe? Il y a eu plusieurs rumeurs. Bayern Munich, Chelsea, et j'ai même vu des rumeurs du FC Barcelone. Pour moi, je l'élimine. Là. Je pense vraiment pas que ça va se faire. Même Thomas a parlé d'Arsenal, ce que j'ai trouvé très surprenant. Mais pour toi, c'est quoi le meilleur fit dans ces équipes-là ou une autre grande équipe? T'es libre de nommer l'équipe que tu veux.
Écoute, pour moi, il y a deux équipes qui ressortent qui ressortent du lot. La première, c'est le Bayern Munich. Comme j'avais mentionné plus tôt, le Bayern Munich, je crois... le Bayern Munich peut se permettre d'avoir un joueur comme Cristiano Ronaldo, même titulaire au lieu de Choupo-Moting. Oui, Choupo-Moting a eu un excellent début de saison du côté de Bayern Munich, mais le Bayern Munich ne peut pas se rendre jusqu'en mettons demi-finale ou même finale de Ligue des Champions avec un Choupo-Moting comme attaquant de centre. Puis écoute, ça va permettre en attendant d'avoir un remplaçant de Lewandowski à court terme. Donc je pense que le Bayern Munich est la première option. La deuxième, c'est Chelsea. Chelsea a besoin criant d'avoir un avant-centre. Je crois qu'en fait, ils n'ont pas été capables d'avoir un avant-centre de qualité depuis Diego Costa, si je ne me trompe pas. Il y a eu l'expérience Alvaro Morata, il y a eu l'expérience Timo Werner, il y a eu l'expérience Lukaku, il y a même eu l'expérience Giroud aussi. Ça n'a pas fonctionné du côté de Chelsea.
Aubameyang maintenant.
Aubameyang aujourd'hui. Ils ont besoin d'un attaquant de pointe. Puis je crois que Cristiano Ronaldo peut être cette réponse. Puis pour le Barça, impossible. Moi, c'est impossible.
Non, je ne suis pas d'accord avec ça non plus.
C'est impossible de voir Cristiano Ronaldo du côté de FC Barcelone, ni du côté de l'Atlético Madrid. Je pense que les gens à Madrid vont très mal le prendre si Cristiano Ronaldo décide de se joindre à un de ces deux clubs-là. Je pense que son nom va être terni du côté du Real Madrid si ça arrive. Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle là-dessus. Puis Arsenal, la raison pourquoi Thomas disait ça, c'est que lors de son entrevue avec Piers Morgan, la fameuse entrevue qui fait en sorte que Ronaldo n'a plus de club aujourd'hui, mais Piers Morgan lui a demandé s'il avait l'intention de rejoindre Arsenal, puis que lui-même, parce qu'il faut le mentionner, Piers Morgan est un fan fini d'Arsenal, il a dit lui-même qu'il aimerait vraiment ça qu'il rejoigne Arsenal. Puis Cristiano Ronaldo avait l'air ouvert à cette idée-là. Mais moi, personnellement, à la place d'Arteta, je pense pas que ce serait une bonne idée d'avoir Cristiano Ronaldo, surtout avec le début de saison qu'Arsenal ont.
Ça serait une distraction.
Ce serait une distraction pour Arsenal. Je pense pas que ce serait la solution envisagée pour l'équipe de Londres qui, je vous le rappelle, est encore l'équipe numéro 1 au classement général du côté de la Premier League. C'est quand même assez important. Thomas, il serait assez heureux s'il était là. Puis que avec ce que je viens de dire. Puis écoute, dernière option, un retour à Madrid, ça pourrait peut-être arriver. Hein. Ce serait pas impossible. T'as Karim Benzema qui est blessé. Fait que je pense qu'une option retour de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid n'est pas impossible. Mais je pense pas que ça va passer avant Chelsea ou le Bayern de Munich. Ça, c'est mes deux choix en tout cas. Mais pour l'instant, si j'ai un choix à faire, c'est le Bayern de Munich.
Je te seconde là-dessus. Je pense que c'est le meilleur fit pour Ronaldo dans ces options-là. Je serais très déçu qu'il se retrouve dans une équipe de plus bas calibre. Là, Galatasaray ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il mérite vraiment une grande équipe européenne. C'est Cristiano Ronaldo, il a encore du très bon soccer dans les pattes. Bayern Munich, ça, ça serait un grain de sel très intéressant avec un Mané qui n'est pas un avançant naturel. Même chose pour Gnabry, pour Müller, pour Sané. Tous ces joueurs-là, qui sont c'est une très bonne profondeur offensive pour le Bayern, mais pour aller remporter une Ligue des Champions, ça prend un bon avant-centre. Ça peut être Cristiano Ronaldo, je suis d'accord avec toi là-dessus. Chelsea, c'est une autre bonne option aussi, je ne suis pas contre. Mais le style de jeu de Chelsea me fait dire que Ronaldo serait peut-être moins efficace dans son rôle à Chelsea. Fait que pour moi, Bayern Munich, c'est la meilleure option, je suis d'accord avec toi. Real Madrid, ça serait surprenant, je pense. C'est pas impossible, comme tu dis, mais ça serait surprenant. Puis Barça, je suis totalement d'accord avec toi. On oublie ça. Là-dessus, Dou, c'est ce qui va... En fait, pour finir sur Ronaldo, s'il connaît une grosse Coupe du Monde, ça pourrait vraiment l'aider là, à se trouver un nouveau club. Là, ça va passer par ça, vraiment, parce que c'est le seul soccer qui va jouer avant que le mercato arrive là, et que la saison redémarre. Donc, il va falloir surveiller ça avec grand intérêt et Ronaldo va devoir bien performer. Là-dessus, Dou, c'est la vraie fin de ce podcast. Jason Valeron, troisième épisode. Mm-hmm. Merci d'avoir été là encore une fois. Que du plaisir à parler foot.
Ah ouais, c'est le fun, ce podcast. Moi, c'est sincèrement ce podcast-là. On avait tellement travaillé fort pour arriver à l'aboutissement des premiers épisodes. Puis là, en ce moment, on en profite amplement. Je suis content d'être là. Puis je te remercie pour cet épisode-là. C'est le fun. Puis on va essayer de suivre ce rythme-là, d'en faire un à chaque semaine. Ça risque d'être difficile, surtout avec les prochaines semaines qui arrivent. Mais on va vraiment travailler fort pour amener du bon contenu aux gens.
Tout à fait. On est très heureux d'être là. On va donner notre meilleur pour ce podcast-là. On s'excuse pour les petits pépins techniques, les petits délais qu'il y a eu dans cet épisode-là. C'est des choses qui arrivent, mais le contenu était là et était, je l'espère pour vous, bon. Là-dessus, c'était Olivier Prince-Grosleau, Animation. Je vous souhaite une très bonne continuité dans cette Coupe du Monde et je vous dis à la prochaine pour un autre Jason Ballon Rond.